France Musique.
Jazz Collection, une série en 4 épisodes sur le piano jazz, proposée par Alex Dutille pour France Musique. Comment le piano évolue au fil du temps? La main droite, la main gauche, la puissance et les nuances, le swing et l'imaginaire, autant de propositions qui se veulent des points de départ pour explorer chacun des artistes qui m'éblouissent. Premier épisode donc, la préhistoire, je devrais dire la pré-belle histoire, de Scott Joplin à Fats Waller et Art Tatum. L'histoire du piano jazz commence en 1899 avec le célèbre Maple Leaf Rag de Scott Joplin, enregistré d'abord sous le nom de Original Rag. Joplin, qui était né en 1868, il a disparu en 1917. Joplin, dont le jeu a été conservé sur un rouleau de piano mécanique. Et avec la popularité des marches de John Philip Sousa, que tous les musiciens de fanfare connaissent par cœur, c'était à la fin des années 1800, les rags pour piano imitaient le tempo en deux temps de ces fanfares, la main gauche jouant le rôle du sousaphone. Lui aussi était né au 19e siècle, en 1894, c'est James P. Johnson. Décédé en 1955, il a quand même passé une bonne partie du 20e siècle derrière son piano, James P. Johnson, qui avait commencé par graver, comme Scott Joplin, des rouleaux mécaniques. Mais il illustre surtout le son du stride new-yorkais, James P. Johnson. Avec l'essor de la danse au début des années folles, la main gauche a commencé à sautiller avec une allure chaloupée qu'on appelait stride. D'une façon très imagée, to stride, en anglais, ça signifie marcher à grandes enjambées, à l'exemple des sautes de registre de la main gauche. C'était une sorte de ragtime modernisé, et le stride conserve la pompe à la main gauche. Poum, 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 poum. Mais en remplaçant peu à peu le binaire par une division ternaire du temps, il s'est développé à Harlem lors des concours de piano, ce qu'on appelait les piano contests, ces joutes pianistiques qui consistaient à s'affronter sur un même thème dans le tempo le plus élevé possible pour perdre les concurrents, mais sans jamais perdre le rythme. Techniquement, la main gauche continue donc de faire la pompe, mais le meilleur spécialiste du stride s'autorise de subtils décalages rythmiques, la main droite très volubile, accordant une place toujours plus grande à l'improvisation. Ça y est, on y est à l'improvisation. Ce style aura une grande descendance chez les pianistes de jazz. On en retrouvera la trace chez Thelonious Monk, chez Jackie Bayard, chez Martial Solal et même chez Keith Jarrett.
Sally, you were down in New Orleans in the early part of the 20th century, and all the boys were playing this fast ragtime music. Show us how they used to play, getting faster and faster.
Jelly Roll Morton, presque contemporain de James P. Johnson, il était de descendance créole et française, et son vrai nom à Jelly Roll Morton, c'était Ferdinand Joseph Lamotte. Il était originaire de la Nouvelle-Orléans, et sur ses cartes de visite, le pianiste et compositeur se déclarait, j'ouvre les guillemets, l'inventeur du jazz. Fermez les guillemets, carrément. On lui doit d'avoir fait entrer le piano dans l'orchestre de jazz de New Orleans, en opérant la synthèse de l'improvisation collective, de l'improvisation individuelle et d'une écriture permettant aux solistes de briller au sein d'arrangements plutôt élaborés. Le musicologue français Ludovic Florin relève que la main gauche de Jelly Roll Morton fait de petites conduites de voix proches des lignes de tuba et de trombone, tout en poursuivant généralement une pompe moins systématique que dans le ragtime, qui comprend des arrêts, des syncopes ou des brisures rythmiques. Quant à sa main droite, elle peut jouer le thème avec le cornet, mais aussi faire des fioritures, des trémolos, des trilles, etc., qui rappellent la clarinette. En 1938, Alan Lomax l'enferme dans un studio de la Bibliothèque du Congrès de Washington pour qu'il se raconte lui-même en musique.
Of course, my theory is to never discard the melody. Always have the melody going some kind of a way. And of course, your background would always be with perfect harmony with what is known today as riffs. Meaning figures, musically speaking, as figures. Show us the riff.
Enfin, un pianiste né au XXe siècle, en 1904, c'est Fats Waller, Thomas Fats Waller. Fats, évidemment, pour sa corpulence. Il va porter le stride, Fats Waller, à un premier point d'accomplissement, associant légèreté de ton et swing malicieux. Et le mot malicieux est important. Sa main gauche, l'une des plus puissantes du jazz classique, couvrait près d'une octave et demie. Organiste comme pianiste, il excella d'abord dans le solo. Ben oui, les solos de jazz, ça date de cette époque-là, avant de diriger des petits ensembles qui sont comme la bande-son des comédies de Lubitsch ou de Capra. Il y a comme un sourire perpétuel au bout du clavier de Fats Waller. Dans les années 30, ce même Fats Waller allait se révéler un compositeur très imaginatif et un pianiste de plus en plus dégagé de ses influences du stride, allégeant la main gauche pour littéralement glisser d'un bout à l'autre du clavier. Son groupe s'appelait Fats Waller and His Rhythm, façon de rappeler ce qui est essentiel avant de laisser les doigts gambader. Sur tempo lent, il se fait presque romantique, lui qui aura une fin dramatique en mourant d'une pneumonie dans un wagon de chemin de fer non chauffé qui le ramenait de Los Angeles vers Chicago en décembre 1943. Il n'avait pas 40 ans, mais il aura laissé près de 700 morceaux enregistrés. Fats Waller. Qui était né au 19e siècle, Willie the Lion Smith, c'était en 1897, il s'est éteint en 1973, encore un patronyme loin de son état civil. Le New-Yorkais Willie the Lion Smith était né Henri-Joseph Bonaparte Bertholoff. C'est lors de son engagement, lors de la Première Guerre mondiale, qu'il avait acquis le qualificatif de The Lion. lui aussi prolonge à sa façon l'héritage de James P. Johnson avec une main gauche encore plus véloce que celle de son mentor et des références à la musique classique française du début du XXe siècle. Beaucoup de délicatesse dans son toucher et ses volutes à la main droite, mais la main gauche, elle, ne lâche jamais le swing, comme dans un de ses chefs-d'œuvre, Echoes of Spring, en 1939, qui prend sérieusement ses distances avec le stride, renvoyé au grenier des souvenirs. Au sein de la galaxie des pianistes stride, il en est un qui impose une nouvelle approche. Il apparaît comme un authentique créateur qui va influer sur le cours de l'histoire. C'est Earl Hines. Il était né en 1903, il va mourir 80 ans plus tard. Et grâce notamment à ses enregistrements avec Louis Armstrong, on a une place majeur pour Earl Hines dans l'histoire du jazz. Une rencontre décisive avec Armstrong qui va lui permettre d'imaginer une sorte de transposition au clavier du jeu de son partenaire. On peut parler d'un phrasé de piano-trompette. Lucien Malson fournit de cette technique une description aussi précise que concise. Je cite « Earl Hines a transposé au piano le jeu de Louis, remplaçant l'inflexion par l'appoggiature, le vibrato par les trilles et une sorte de trémolo d'octave. L'adoption de ce trumpet piano style est une des raisons de l'entente admirable, de l'unité de ton qui règne dans leur duo. » Hines sera un phare pour plusieurs générations de pianistes par la suite, de Teddy Wilson à Bud Powell, en passant par Art Tatum, d'où son surnom de Father, le père. Dans l'œuvre d'un tel pionnier, estimé Dizzy Gillespie, vous pouvez mettre à jour les racines de Bud Powell, d'Herbie Hancock, de tous les types qui se sont fait connaître ensuite. Et Gillespie rajoute, sans Earl Hines, qui a brillamment montré la voie à la génération suivante, on ne peut savoir ce que joueraient les pianistes actuels, ni comment ils le joueraient. Fin de citation. Et Alain Gerber, mon confrère, lui, il dit que Earl cultiva toute son existence l'art des brisures, des carambolages rythmiques, des segments disjoints, des traits obliques, des ponctuations intempestives, des accents vagabonds, des fulgurances et des impertinences que rien n'annonce, des emportements et des retombées, des intrigues à rebondissements et à coups de théâtre, des climats violemment contrastés. À la dramaturgie du piano jazz, conclut Alain Gerber, il a donné, toujours avec grâce, souvent avec fantaisie, une dimension shakespearienne.
Musique, Jazz Collection, le piano jazz. Alex Dutille.
Teddy Wilson, avec lui on rentre dans le XXe siècle, il était né en 1912, disparu en 1986. Il a été, Teddy Wilson, l'un des tout premiers à jouer du piano avec un style résolument moderne. Sa main droite faisait la plus grande partie du travail, la main gauche fonctionnant en notes détachées et en accord, presque comme un bassiste. Teddy Wilson a été le pianiste de jazz le plus populaire de l'époque du swing et des années bebop. et il fut aussi un formidable accompagnateur d'un raffinement et d'une intelligence qui glissait un tapis de soie sous des solistes comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ou Benny Goodman. C'est pas mal pour s'entourer.
Come to me, my melancholy baby, cuddle up and don't be blue.
Et la virtuosité naturelle de Teddy Wilson s'est effacée derrière la conjonction de la simplicité et de la rigueur. Virtuose sans le montrer, dépouillé et implacable plutôt. Il a révisé la main gauche traditionnelle en l'allégeant, et sur cette main gauche fluide, sa main droite égrène des mélodies lyriques étonnantes en notes détachées ou en octaves légères avec un toucher nacré. Son confrère Dick Katz l'a qualifié ainsi. Alors que Earl Hines était un funambule musical audacieux, Teddy Wilson ronronnait comme une Rolls-Royce pianistique finement réglée, donnant un sentiment d'équilibre et de sécurité. Et conclut ainsi Dick Katz, dans l'ensemble, ses motifs présentaient une symétrie mozartienne inédite à l'époque où il est apparu sur la scène du jazz. Teddy Wilson fut un maître du swing en petite formation. Les années 30 et 40 virent quelques patrons de big band diriger l'orchestre depuis le piano. Ainsi de Count Basie, qui a traversé le siècle de 1904 à 1984, il voulait, disait Marshall Royal, un de ses musiciens, il voulait que tous les membres de l'orchestre jouent n'importe quoi. Il préférait s'asseoir et jouer pling, 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 en souriant et en appréciant chaque minute. Il aimait entendre ses hommes jouer. Fin de citation. Ça a conduit à sous-estimer l'importance de Basie en tant que pianiste de jazz, et ce à deux niveaux. En tant que soliste, il a passé presque toute sa vie à être considéré soit comme un traditionnaliste luttant pour atteindre un style stride, soit comme une sorte d'excentrique qui distribuait librement ses célèbres figures en pointillés. En fait, il avait ramené le piano stride à ses fondamentaux, en impulsant un rythme sur lequel n'importe quel soliste pouvait se faufiler. Ses solos étaient donc fondamentaux pour ce qu'il laissait en suspens, comme une série de points attendant de devenir une ligne, puis une image. Ce que jouait Basie finalement, c'était des commentaires, des éclaboussures irrégulières et des ponctuations qui donnaient un nouvel élan rythmique et harmonique au solo comme à l'ensemble. Sa maîtrise du tempo et de la synchronisation était primordiale. Deux éléments de son jeu qui sont restés, encore à ce jour, inimitables. Count Basie, en 1936, lors de son premier enregistrement, jouant Lady Be Good avec son sextet qui comprenait le saxophoniste ténor Lester Young, Basie était le maître du minimalisme au clavier et le roi du swing de Kansas City. Avec l'avènement de l'ère du swing, le piano a commencé à jouer un rôle bien plus important pour maintenir les danseurs sur la piste. Et oui, le jazz dansait à cette époque-là. Dans les notes de pochette de l'intégrale mosaïque des enregistrements de 1932-1940 de Duke Ellington, mon confrère Stephen Larker écrit ceci. Edward Kennedy Duke Ellington était un pianiste magistral, d'une grande maîtrise technique, d'une grande créativité et d'une élégance rare. Il était à la fois un grand pianiste soliste, qui a malheureusement rarement enregistré sans son orchestre, et un grand pianiste de big band, dont le jeu inspirait souvent les autres dans leurs efforts solistes. Enfant, à Washington DC, il prend ses premières leçons de piano auprès d'une certaine Madame Klingscales. À l'adolescence, il reçoit des leçons supplémentaires et des conseils, notamment de Doc Perry et de Harvey Brooks. Il apprend le célèbre morceau de James P. Johnson, Carolina Shout, en ralentissant un rouleau de piano et en observant quelles touches du piano mécanique sont enfoncées. Lorsqu'il arrive à New York en 1923, il se lie d'amitié avec Willis Lyon Smith, entre autres, qui lui sert de mentor, et à l'automne 1925, le club Kentucky engage un second pianiste pour une courte période. Ce sera Thomas Fats Waller, vétéran d'innombrables concerts et concours de piano à Harlem. Duke Ellington était imprégné de cette tradition du piano stride. Mais il pouvait également faire preuve d'une étonnante originalité moderniste, que ce soit en jouant en solo ou en accompagnant les solos d'autres musiciens. En 1962, en compagnie de Charles Mingus et Max Roach, il enregistre un chef-d'œuvre, Money Jungle, un album radicalement singulier, sidérant de dépouillement et d'inventivité dans le cadre du trio piano-basse-batterie. On comprend alors que quelques années plus tôt, son approche du piano fut un chaînon manquant pour annoncer le futur Thelonious Monk.
Musician that has played all the ears. Other musicians live through the ears and they never change the style.
On la surnomme la First Lady in Jazz. Dans son autobiographie, Music is My Mistress, Duke Ellington dira d'elle, Marie-Lou Williams est toujours restée dans l'air du temps. Son écriture et son jeu ont toujours été un peu en avance pour son époque. Et ça, pendant toute sa carrière. Sa musique garde et maintient une qualité intemporelle. Elle est comme l'âme de l'âme. Citation de Duke Ellington. Bien un peu à la manière d'un Miles Davis au cours de sa carrière, Marie-Lou Williams, dont la vie est allée de 1910 à 1981, a épousé toutes les formes successives du jazz. Elle le précise en 1978 au micro de Marianne McPartland qui l'interrogeait sur la radio publique américaine. « Je suis la seule musicienne vivante, disait-elle, qui ait participé à tous les courants. Les autres musiciens ont traversé les époques sans changer de style. » Fin de citation. Mais en ça, elle n'avait rien d'un caméléon, Marie-Lou Williams. Juste des antennes pour être à chaque fois légèrement en avance sur son temps en s'imposant, en plus, dans un monde d'hommes. Car oui, à l'écart de la vogue des groupes instrumentaux féminins dans les années 30, elle s'est essentiellement produite au sein de groupes masculins. Personne ne s'attendait à voir une femme assise sur scène avec 12 ou 18 hommes, confia-t-elle. Quand j'étais dans le groupe du saxophoniste Andy Kirk, on ne me disait rien, parce que tout le monde devenait fou quand je jouais. C'était l'époque où je commençais à jouer avec une main gauche puissante comme Fats Waller, et on pensait que c'était incroyable qu'une femme fasse ça. Dans le livre de Stanley Dance, Le monde de Earl Hines, cette citation de Nat King Cole. Tout ce que je suis, je le dois à cet homme, parce que je l'ai copié. Bien sûr, au fil des ans, je me suis éloigné de lui, mais je ne l'oublierai jamais, car il était mon idole. Il était toujours gentil avec moi, et n'était jamais trop occupé pour oublier de me dire bonjour ou me montrer quelque chose. Nat Cole enregistre pour la première fois en 1936 avec un groupe dirigé par son frère aîné Eddie. Il n'a que 19 ans, mais il maîtrise déjà l'essentiel du style de Earlines. Des passages à l'octave rapides comme l'éclair et des ponctuations syncopées à la main gauche parfaitement assimilées, histoire de montrer tout ce qu'il savait faire en même temps, comme tous les débutants. Mais en 1943, lorsque le Nat King Cole Trio commence à enregistrer pour Capitol, le pianiste a inséré de nombreux éléments novateurs dans son jeu, dont certains ont précédé ou coïncidé avec l'événement du bebop. Sur le plan harmonique, Nat King Cole va plus loin que Earlines et Teddy Wilson. Seul Art Tatum le surpassera un peu plus tard dans ce domaine. Art Tatum, 1909-1956. Il était quasiment aveugle de naissance, mais son infirmité ne l'a pas empêché d'acquérir une technique encore de nos jours rarement égalée. Il était admiré par les plus grands virtuoses classiques qui allaient le voir en club, comme Vladimir Horowitz ou Arthur Rubinstein, et ses prestissimo infernaux font à présent partie de la légende de l'instrument. Tout style confondu, avec des traits en accord, en tierce, en octave, dans l'héritage de Franz Liszt, carrément. Art Tatum aime ainsi parcourir le clavier dans toute son étendue, dans un sens ou dans l'autre. C'est parfois ponctué d'une note très aiguë quand il déplace la main avec une rapidité incroyable. Et son improvisation est basée sur une ornementation extrême de la mélodie qu'il garde toujours en vue, tout en dosant parfaitement chaque plan sonore. Sa vélocité est telle qu'on se demande parfois si on n'entend pas un duo de pianistes ou s'il ne s'agit pas d'une harpe. Et en virtuose accompli, parce que le mot « virtuose » a un sens absolument parfait pour Art Tatum, il accorde la même importance aux deux mains, ce que démontre bien son interprétation du Tiger Rag de 1933. Pensée harmonique avancée d'Art Tatum va influencer les futurs révolutionnaires du bebop. Ainsi, il n'hésite pas, lui qui vient du jazz classique, à intégrer des accords supplémentaires dans la mélodie, créant de nouveaux enchaînements harmoniques. Et il utilise tout aussi fréquemment un accord de passage qui deviendra l'apanage des boppeurs. Si la main gauche vient bien sûr du stride de ses débuts, elle a retenu, cette main gauche, la leçon d'Earlines et s'est, à son exemple, abandonné le rôle de métronome pour une plus grande liberté, des gammes parallèles ou en mouvement contraire, des effets rhapsodiques, des enchaînements d'accords très rapides, etc. Bref, cette main gauche n'a rien à envier à la main droite. Et en plus, Art Tatum apporte un soin particulier à créer de nombreux contre-champs. On a un véritable orchestre avec ses deux mains. Il marque une apogée, pour certains indépassable, de la conception orchestrale du piano, perçu comme un instrument roi, autosuffisant et exerçant une emprise forte sur l'orchestre. Art Tatum, c'est à la fois le dernier classique et le premier moderne. C'était le premier épisode de la série consacrée au piano jazz dans la Jazz Collection pour France Musique, proposée par Alex Dutille. Prise de son à la main droite et mixage à la main gauche, Valérie Lavalard. Attaché de production, Emmanuel Lacaze. Réalisation, Pierre Villers.
France Musique.